DW. Info Matin.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes et à tous et bon réveil sur les ondes de la radio internationale allemande. Il est 7h en temps universel, 8h dans nos studios à Bonn. C'est Constance Fischer et Sandrine Blanchard au micro pour vous présenter Info Matin.
Bonjour Constance, bonjour Ali qui a toujours son bonnet sur la tête. Bonjour à tous, à la une de ce jeudi 31 octobre 2019. 5 ans après la fuite du président Blaise Compaoré, certains Burkinabés souhaitent son retour, tandis que d'autres préféreraient le voir jugé.
Le Burkina, qui sera aussi au menu de l'arbre à palabres dont nous passerons un extrait en fin de journal ce matin. Il sera aussi question des bisbilles au sein de l'opposition congolaise, alors que Moïse Katumbi est en tournée dans l'est de la RDC.
Et puis on s'intéressera aussi à la production de cacao au Cameroun, en crise depuis les années 80. La filière tente de se refaire une place au soleil.
La rubrique sport, c'est donc avec Ali Farhat. Bonjour Ali, sans votre bonnet maintenant.
Bonjour à toutes et à tous, non sans mon bonnet mais avec mon casque. Hier soir, on jouait la suite et la fin du deuxième tour de la Coupe d'Allemagne. Le Borussia Dortmund a battu Mönchengladbach 2-1. Leipzig a réalisé le carton de la soirée, victoire 6-1 à Wolfsburg. Et puis le SC Verl, pensionnaire de 4e division, a battu le Holstein Kiel.
Ali, on vous donne rendez-vous en fin de journal, mais tout de suite et pour commencer, le Flash Info, c'est avec vous Sandrine Blanchard.
Le gouvernement syrien appelle la milice kurde du YPG à le rejoindre dans la lutte contre la Turquie dans le nord du pays. Les Kurdes et les Arabes ont un ennemi commun, argumente le ministre de la Défense à Damas. Il faut qu'ils mettent leurs forces en commun. L'armée turque est entrée le 9 octobre en territoire syrien pour chasser les milices kurdes. La Turquie les soupçonne de proximité avec le PKK. Or, Ankara considère le PKK comme une entité terroriste. Après le désistement du Chili pour l'organisation de la COP25, Bonn, la ville depuis laquelle nous émettons, se propose pour accueillir le sommet de l'ONU sur le climat. En 2017, l'ex-capitale ouest-allemande avait déjà organisé une COP à la place des îles Fidji.
Et hasard du calendrier, c'est à partir d'aujourd'hui que le gouvernement allemand doit s'expliquer face à des juges sur sa politique climatique.
Oui, les autorités fédérales ont été attaquées en justice par 3 agriculteurs. Les plaignants ne réclament pas une indemnisation pour leur mauvaise récolte, mais bien que la justice prenne une décision contraignante pour que le gouvernement allemand soit contraint de prendre des mesures plus fortes contre le réchauffement climatique. C'est la première requête du genre en Allemagne. Une autre similaire avait abouti l'an dernier aux Pays-Bas à la condamnation de l'État néerlandais à réduire plus fortement les gaz à effet de serre.
Le réseau Twitter ne gagnera désormais plus d'argent grâce aux publicités à caractère politique.
À partir du 22 novembre, la plateforme ne permettra plus les messages politiques payants émis par des groupes ou des candidats. Le patron de Twitter a constaté la force de la publicité sur Internet et il craint qu'elle ne soit dévoyée à des fins partisanes, notamment en période d'élection. Que les partis et responsables politiques se rassurent, ils n'auront qu'à se tourner vers Facebook, lui qui continuera bien de leur vendre ses espaces publicitaires.
Un incendie en cours dans un train de passagers au Pakistan dans la province du Punjab.
Les sauveteurs parlent pour l'instant de 65 morts et de nombreux blessés dans un état grave. L'incendie se serait déclaré suite à l'explosion d'une bouteille de gaz.
Et puis les pompiers londoniens sous le feu de la critique.
Une critique qui émane des survivants et des proches des victimes de l'incendie de la tour Grenfell de Londres, c'était en juin 2017. Un rapport d'enquête établit que les pompiers auraient demandé aux habitants de rester dans leur logement alors que le bâtiment était en flammes. La raison principale de l'incendie qui a tué plus de 70 personnes à l'époque était la mauvaise qualité du revêtement de sa façade.
Il y avait du beau monde réuni hier soir au siège des Nations Unies à New York.
Une réunion était organisée pour marquer les 10 ans du mandat de la représentante spéciale de l'ONU sur les violences sexuelles liées au conflit armé. L'actuelle représentante Pramila Patten a souligné les progrès effectués dans la lutte contre ce type de violence sur le plan juridique, institutionnel et dans l'aide concrète aux victimes. Les prix Nobel de la paix 2018 étaient aussi présents, avec parmi eux le gynécologue congolais Denis Mukwege. Il en a appelé à la responsabilité de l'humanité tout entière pour entendre les appels des victimes.
Jusqu'il y a peu, les liens entre les violences sexuelles et la paix et la sécurité internationale n'étaient pas établis et les cris des survivantes n'étaient ni écoutés ni entendus car l'indifférence et l'inaction ont trop longtemps prévalu. Mesdames et messieurs, Aujourd'hui, ce qui apparaissait comme une conséquence inévitable de la guerre semble devenir évitable.
DW
7h50, universel, la même heure au Burkina Faso. Il y a 5 ans, jour pour jour, Blaise Compaoré était chassé du pouvoir à la suite d'une insurrection populaire. Des milliers de Burkinabés étaient descendus dans la rue pour empêcher leur président de changer la constitution et se maintenir ainsi au pouvoir.
Et c'était le 31 octobre 2014, 5 ans après, des voix s'élèvent au Burkina pour demander le retour au pays de l'ancien chef de l'État qui vit actuellement en Côte d'Ivoire. On écoute les explications de Georges Ibrahim Tonkara.
L'insurrection d'octobre 2014 et l'arrivée au pouvoir de Roch Marc Christian Kabore ont suscité d'énormes espoirs chez les déçus de la gouvernance Compaoré. Mais 5 ans après, l'espoir a fait place à la désillusion, voire au désespoir. L'économie burkinabé a un taux de croissance correct, mais le front social est en ébullition. La corruption serait omniprésente et l'insécurité règne dans le nord et le centre du pays. De quoi rendre certains citoyens nostalgiques de l'époque Compaoré. Mamadou Abdel Kader Traoré est le président du MPRBC, le mouvement pour le retour de Blaise Compaoré.
Nous constatons la morosité économique depuis 2015. Actuellement, le Burkina Faso est bloqué. Nous, c'est la réconciliation, le retour du président Blaise Compaoré dans des conditions apaisées. Ensemble, que tous les Burkinabés puissent mettre main dans la main pour bouter le terrorisme hors de nos frontières.
Marcel Tankwano du mouvement M21, un mouvement qui a joué un rôle prépondérant dans les événements d'octobre 2014, ne voit aucun inconvénient au retour de l'ancien président, pourvu toutefois qu'il passe d'abord devant la justice.
S'il y a des gens qui demandent le retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso, cela voudrait dire que ce régime-là a échoué. Il y a les anciens comportements que le peuple avait unanimement condamnés qui refait surface. La seule solution qui vaille aujourd'hui au Burkina Faso pour permettre notre pays de fonctionner normalement, c'est d'abord l'union de ses fils vers une cohésion sociale véritable, vers le pardon, vers la réconciliation de tous les fils du Burkina Faso, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur.
La veuve de Thomas Sankara n'est pas non plus opposé au retour de Blaise Compaoré. Mais selon elle, celui-ci doit répondre aux questions de la justice pour s'expliquer sur l'assassinat en 1987 de Thomas Sankara, le chef de la révolution de 1983. Mariam Sankara.
Rien ne l'interdit de venir dans son pays, mais la justice l'attend. Vous savez qu'il y a un mandat qui a été lancé. Donc, une bonne partie de la population voudrait aussi qu'il réponde à la justice. La réconciliation passe par la justice.
Depuis sa chute du pouvoir en octobre 2014, l'ancien président vit en exil en Côte d'Ivoire. Et dans une lettre adressée au président Roch Marc Christian Kabore en avril dernier, il s'est dit prêt à aider le gouvernement à endiguer l'insécurité au Burkina Faso.
En plus bref, des nouvelles de la Guinée où le report signé des obsèques des victimes de la répression des manifestations contre le possible troisième mandat d'Alpha Condé défraie la chronique. Ce sont notamment les compétences juridiques du ministère de la Santé qui sont pointées du doigt. C'est en effet ce dernier qui a estimé hier que les corps devaient rester à l'hôpital pour la poursuite des autopsies. Or, selon un avocat et activiste des droits de l'homme cité par le site Guinée News, cette mesure administrative serait contestable d'un point de vue légal.
Et le Front National de Défense pour la Constitution appelle à de nouvelles manifestations lundi prochain. Par ailleurs, des cérémonies officielles, celles-là, sont prévues aujourd'hui à Conakry pour marquer le retour d'Alpha Condé au pays. Le président était en Russie depuis le sommet de Sotchi.
Vous écoutez la DW.
En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi, le leader de la plateforme Ensemble pour le changement, poursuit sa tournée dans l'est du pays. Après Butembo, il s'est rendu à Bukavu.
Au sein de la plateforme d'opposition Lamuka, dont Moïse Katumbi est toujours le coordinateur, il y a de l'eau dans le gaz. Certains membres de la coalition veulent rester fidèles au candidat Martin Fayulu. Il continue de clamer sa victoire volée à l'élection présidentielle. D'autres, au contraire, veulent jouer le rôle d'une opposition républicaine, c'est-à-dire accepter de coopérer avec le président Félix Tshisekedi.
Écoutez à ce propos l'analyse de Michel Lutumbué. Il est chargé de recherche au groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, le GRIP, et il répond aux questions de Carole Assignon.
Je soulignerai le caractère électoral en fait, de la coalition comme la Lamuka. C'est à la fois une nouveauté et une tendance dans le jeu politique congolais depuis toujours, où on a une logique d'ancrage territorial et régional pour la plupart des formations. Et pour pouvoir avoir une influence au niveau national, passe des alliances.
Du coup, dans le cas de la Mouka, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de cette coalition ?
À mon avis, on assiste effectivement à la fin de cette coalition qui repose sur des formations avec une trop grande hétérogénéité, parce qu'on retrouve ensemble de Moïse Katumbi, qui lui-même est un transfuge de l'ancienne majorité sortante, le MLC, on a eu le MSR de Pierre Lumbi, qui ne partage pas une convergence idéologique. Il s'agissait d'une approche plutôt électoraliste sans avoir une plateforme vraiment de gouvernement avec des programmes convergents ou en tout cas des affinités idéologiques. Dans l'entourage même de Moïse Katumbi, il avait annoncé lui-même qu'il allait mener une opposition républicaine.
Alors justement, Moïse Katumbi, il est actuellement en tournée nationale. Hein. Il était à Butembo hier. Il a parlé de combattre l'insécurité. Aujourd'hui, il est à Bukavu. C'est une stratégie de reconquête finalement ?
Absolument, il est en train de faire un travail de reconquête, tandis que Martin Fayulu, avec sa thématique de la vérité des urnes, est de plus en plus isolé. Et c'était vraiment contre toute attente qu'il avait émergé donc à Genève comme leader de l'opposition, sans un ancrage véritable dans les autres points du territoire.
Il y a un conflit également qui oppose le camp Fayulu à celui de Moïse Katumbi, au sujet justement de la nomination du porte-parole de l'opposition.
Il y a une ambiguïté qui consiste à se considérer comme le président élu, tout en gardant une représentation, même ne fût-ce que symbolique, relève quand même de la contradiction. La coalition ne survivra pas au réalisme, au pragmatisme prôné par les autres, ses anciens alliés. Moïse Katumbi va jouer à souhait la carte de l'incarnation du pôle de l'opposition républicaine interne.
C'était Michel Luntumbué, chercheur au GRIP sur la République démocratique du Congo. En plus bref, l'émissaire de l'ONU pour le Burundi, Michel Kafando, a quitté ses fonctions hier avec un espoir, celui que les élections générales de 2020 soient transparentes. L'ancien diplomate burkinabé a déploré que le dialogue interburundais sous les auspices de la communauté d'Afrique de l'Est n'ait toujours pas eu lieu 4 ans après son lancement. Il a également regretté une détérioration continue de la situation sociale économique dans le pays.
Et puis en République centrafricaine, les autorités ont lancé une opération de réinstallation pour les milliers de personnes qui avaient dû quitter leur maison suite au débordement du fleuve Oubangui et aux inondations. Près de 2500 ménages, notamment des femmes et des enfants, ont été transportés sur le site du complexe de basketball de Bangui.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Et tiens, à propos de Facebook, le premier réseau social du monde a démantelé une opération de désinformation qui aurait été menée dans plusieurs pays d'Afrique à partir de la Russie. Les pays visés sont notamment la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo ou encore le Cameroun, mais aussi Madagascar, le Soudan, la Libye ou la Centrafrique.
Les comptes, pages et groupes concernés ont été fermés sur le réseau social et sur Instagram. Apparemment, ils étaient liés à des entités associées derrière lesquelles se cache un certain Evgeny Prigozhine. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, il s'agit d'un proche de Vladimir Poutine. Il avait déjà été accusé d'avoir animé la campagne anti-Clinton et pro-Trump aux États-Unis en 2016.
Et puis WhatsApp, l'application de messagerie cryptée détenue également par Facebook, a de son côté annoncé avoir déposé plainte contre NSO Group, une société israélienne à la réputation sulfureuse, qui est spécialisée dans les logiciels d'espionnage. L'entreprise est notamment accusée d'aider des gouvernements à épier des militants et des journalistes. Dans cette affaire, de nombreuses personnalités rwandaises auraient été visées par le logiciel d'espionnage Pegasus.
Et puis, pour terminer sur ce chapitre un peu inquiétant, en Ouganda aussi, WhatsApp serait utilisé pour espionner des opposants. L'ONG Freedom House a noté récemment un fort sentiment que la surveillance s'est étendue ces dernières années en Ouganda. Une impression qui devrait être renforcée par le fait que la police ougandaise a annoncé vouloir utiliser les groupes WhatsApp pour lutter contre la criminalité à Kampala, la capitale.
Vous écoutez Info Matin sur les ondes de la DW. On quitte un instant les réseaux sociaux pour parler chocolat. Après la décision de la Côte d'Ivoire et du Ghana de s'unir pour assurer à leurs producteurs un prix minimum pour leur cacao, le débat se poursuit au Cameroun où le déclin de la culture du cacao date de la fin fin des années 80.
Oui, face à la chute de la production, le pays parie sur la qualité pour conserver sa place sur le marché mondial et assurer une activité rentable à ses producteurs. Le point avec notre correspondant à Douala, Henri Fotso.
Le cacao représente 15% des recettes d'exportation du Cameroun. Environ 600 000 familles vivent de la filière cacao, mais celle-ci est en recul depuis la fin des années 80. Jean-Marie Cacao, ainsi que tout le monde l'appelle, est un producteur du centre du Cameroun.
Le planteur a des difficultés au niveau du travail, oui, bien sûr, au niveau des fongicides et au niveau du travail physique.
La crise des années 80 a provoqué le désengagement de l'État dans les soutiens aux producteurs de cacao, notamment pour les fertilisants, les fongicides et le désenclavement des bassins de production. Ces dernières années néanmoins, il y a eu une légère reprise avec la promotion par l'État des normes de récolte, de fermentation et de séchage du cacao. L'État veille également au respect des prix homologués. Camille Nzana, représentant d'une société d'exportation basée à Douala, qui va collecter les fèves dans l'arrière-pays.
Le prix qui nous est donné à partir doit les restituer à la juste mesure. Ça veut dire quand ils arrivent à se regrouper au nombre de 2 ou 3 ou 4, on arrive à leur donner un plus-value. Si le prix à Douala est peut-être à 1000 francs à ce jour, on peut donner peut-être 900 sur place ou 900 quelque chose.
L'État du Cameroun, à travers la SODECAO, soutient donc la relance de la culture de cacao, avec en particulier l'augmentation des champs semenciers qui atteignent aujourd'hui environ 50 hectares pour 60 000 cabosses semences. Jean-Claude Ako Akwafane, le directeur général de la SODECAO, explique.
Nous travaillons pour améliorer la qualité de la production. Nous avons également réintroduit une couverture phytosanitaire pour protéger le verger. Des efforts sont faits en ce qui concerne le conseil agricole. Nous venons de former nos agents pour des techniques très pointues de greffage, de pollinisation manuelle.
Le nouveau plan de relance de la culture du cacao au Cameroun s'étale de 2020 à 2027. Il vise une production nationale de 600 000 tonnes de fèves de cacao par an à partir de 2025. Henri Fotso à Douala pour la Deutsche Welle.
Toujours à propos de cacao, et tandis que les petits producteurs sont en train de négocier des tarifs minimums pour vivre de leur activité, eh bien le salon du chocolat s'est ouvert hier à Paris, en France, notamment sur un défilé de robes en chocolat. L'une d'elles était portée par Miss Côte d'Ivoire 2017, Manjalia Gbane. Rappelons par ailleurs que le salon du chocolat est parrainé par Dominique Ouattara, l'épouse du président ivoirien. À retenir par ailleurs Sandrine aujourd'hui.
En Tunisie, le parti islamiste Ennahda doit présenter aujourd'hui son programme cadre en vue de la formation d'un gouvernement. Et puis l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie vont se retrouver le 6 novembre à Washington pour un sommet tripartite sur le barrage sur le Nil Bleu. Il s'agit d'un projet controversé au cœur de tensions entre les trois pays depuis des années. La dernière rencontre entre ces États remonte à début octobre, mais les négociations ont abouti à une impasse, selon le Caire, alors que les pourparlers sont bloqués depuis 9 ans maintenant. Le barrage est censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique du continent africain.
DW, le sport.
Hier soir à Lyon, jouait la suite et la fin du deuxième tour de la Coupe d'Allemagne. À Dortmund, le Borussia recevait l'autre Borussia, le vrai, me dites-vous, celui de Mönchengladbach.
Enfin, c'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Une rencontre pas vraiment passionnante pendant plus d'une heure et qui s'est emballée dans les dernières minutes. Ce sont les visiteurs qui ont marqué les premiers à la 71e minute grâce à une jolie tête de Marcus Thuram. Dans l'obligation de réagir, Dortmund a mis la pression sur son adversaire et a fini par égaliser par l'intermédiaire de Julian Brandt, dont la frappe a été contrée à deux reprises avant de rentrer. Brandt que l'on retrouvera à la 81e minute pour inscrire le but de la victoire. 2 buts à 1 pour le Borussia Dortmund. Un succès peu probant, mais l'essentiel est assuré, comme l'a expliqué Julian Brandt, le héros du match à l'issue de la rencontre.
Bien sûr, nous avons eu de la réussite sur le but de l'égalisation, mais parfois, il faut savoir forcer la chance. Ce soir, nous nous sommes battus jusqu'au bout, et c'est le plus important. Il y a évidemment des choses à revoir, tout n'était pas parfait, seulement, qu'elle soit belle ou non, une victoire reste une victoire.
sind unschöne Siege auch Siege.
Oui, n'empêche qu'on sait quel est le vrai Borussia, mon ami, le rose, me l'a dit ce matin, comme dit la chanson. Bon, de ce côté, le RB Leipzig, finaliste de la saison dernière, n'a pas fait de détails face à Wolfsburg.
En manque d'efficacité ces dernières semaines, les hommes de Julian Nagelsmann ont été sans pitié avec les Loups. Victoire 6 buts à 1 avec notamment un doublé de Timo Werner. Pour le milieu de terrain Konrad Leimer, ce succès va faire beaucoup de bien à l'équipe.
Nous n'aurions pas pensé gagner 6-1 ici, mais au final, c'est une bonne réponse aux critiques de ces dernières semaines. Ce soir, nous avons réussi à mettre 4 buts en 10 minutes, par exemple. Ce qui est important maintenant, c'est que nous répétions ce genre de performance lors des prochaines rencontres.
Et qui dit Coupe d'Allemagne, elle dit magie de la Coupe. Et celle-ci a encore opéré hier soir.
Et oui, après mardi, le FC Sarrebruck qui a éliminé le FC Cologne. Hier, le SC Verl, pensionnaire de 4e division également, est parvenu à éliminer au tir au but le Holstein Kiel qui joue 2 divisions au-dessus. C'est également au tir au but que Kaiserslautern a disposé de Nuremberg. Idem pour le Hertha Berlin face au Dynamo Dresde. Le score était de 3 buts partout à l'issue des prolongations. Ailleurs, victoire 4 buts à 1 du Werder Bremen face à Heidenheim. Düsseldorf a battu Aue 2 buts à 1 et enfin Francfort est allé s'imposer 2 buts à 1 à Hambourg sur le terrain du FC Saint Pauli. Le tirage au sort des 8e de finale aura lieu dimanche 3 novembre prochain. Les rencontres, elles, se joueront les 4 et 5 février prochain.
Allez, on vous retrouve ce soir, 17h TU.
Sans faute.
A tout à l'heure.
Invité de la rédaction.
Et nous vous le disions en titre, le débat de la semaine s'intéresse au Burkina Faso, 5 ans après la révolution qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir. Et pour en débattre, Eric Topona a interrogé Sandrine.
Elie Tarpaga, qui préside les comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire. Désiré Boniface Sommé, il est secrétaire en charge de l'orientation politique et idéologique de l'Union pour le progrès et le changement, le parti du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Et puis Yves Milogo, il est premier secrétaire adjoint de la communication du CDP, le parti de l'ex-président Blaise Compaoré, et c'est lui qu'on entend en premier.
L'amertume, en ce qui nous concerne, c'est que nous avons pris le son de ce que demandait la population, mais nous nous rendons compte que l'objectif, du moins les aspirations de la population, ce n'est pas ce qui se manifeste actuellement.
Oui, nous allons y revenir tout à l'heure. Hein. On va y revenir tout à l'heure. Je voulais juste que vous nous dites un peu votre état d'esprit hein, 5 ans après la chute de votre parti, le CDP et de Blaise Compaoré.
Bon, je rectifie. Le CDP n'a pas fui. Effectivement, il y avait une instrumentalisation pour faire une chasse à l'homme. Ceci étant, avec du recul, nous nous rendons compte que c'était pour faire partie de quelqu'un qui prend la place. Sinon, il n'y avait pas un objectif lié aux aspirations des populations.
Mais est-ce que le CDP ne s'en veut pas un peu, puisque le président Compaoré, ou l'ex-président Compaoré, aurait dû prendre en compte les préoccupations du peuple
en ne pas toucher à l'article
37 de la Constitution?
Je pense pas que nous n'avons aucun regret par rapport à notre position d'alors. Puisque dans les mouvements, le président Compaoré a annoncé le retrait justement de cette modification, mais ça n'a pas changé grand-chose.
Mais c'était pas trop tard ? Est-ce que ce n'était pas trop tard, la décision du président Compaoré ?
Je vous dis, ce n'était pas tellement lié à ça. Seulement, les gens ont joué sur la durabilité au pouvoir de Compaoré, mais cela, c'était la durabilité d'un homme au pouvoir, mais sans d'autres objectifs.
Alors, Elie Tarpaga, je le rappelais, vous êtes le président des comités de défense et d'approfondissement des acquis de l'insurrection populaire. Vous étiez très actif en 2014. Est-ce qu'avec le recul, vous regrettez d'avoir milité pour le départ au forceps de Blaise Compaoré?
Pas du tout, parce que quand un peuple se met en mouvement, c'est qu'il y a des revendications qui sont posées. Et une fois que ces revendications ne sont pas satisfaites, ça ne pouvait qu'être autrement. Parce que Blaise Compaoré, premièrement, est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Ensuite, il a voulu s'éterniser au pouvoir. Et le pays était plongé dans la malgouvernance, dans la corruption, dans les assassinats. Donc c'était normal que le peuple burkinabé sorte pour dire non à tout ça et chercher un véritable changement en sa faveur. Malheureusement, nous ne sommes pas actuellement dans ce changement que nous avons voulu.
Donc si c'était à refaire, vous allez refaire la même chose?
Justement, nous travaillons justement à conscientiser les populations pour qu'on puisse refaire la même chose et pouvoir accéder à un changement véritable.
Je vais voir ce qu'en pense le docteur Désiré Boniface Sommet, qui est membre du bureau politique national de l'UPC, hein, le parti du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. L'UPC, tout comme d'autres partis de l'opposition, était également très très actif pour s'opposer à la modification de la Constitution, notamment l'article 37 en 2014. Avec le recul, est-ce que vous estimez que c'était un bon choix que vous avez opéré à l'époque?
Ok, je disais dans un premier temps que ma pensée allait à l'endroit des victimes de cette insurrection-là. Et secondo, que cette insurrection est la révélation d'une maturité d'un peuple à un moment donné de son évolution, de son histoire. Le régime de Blaise Compaoré, son système était au pouvoir depuis 27 ans. 27 ans de pouvoir consacré par une véritable descente aux enfers en ce qui concerne plusieurs pans de la vie sociale et de la vie économique du pays. Et petit à petit, le pouvoir se concentrait autour d'une famille qui était véritablement tout seul maître à bord.
Alors, tout à l'heure, monsieur Yves Milougo du CDP nous a dit que le président Compaoré avait pris en considération les reproches du peuple en acceptant de retirer son intention de modifier la Constitution.
Oui, mais c'était à la toute dernière minute. Il n'avait plus le choix.
Comme on dit toujours, mieux vaut tard que jamais.
Oui, il était totalement dos au mur. Et il avait laissé trop traîner les choses. Déjà, il y avait des cadavres qui jonchaient la rue. C'était trop tard pour lui. Véritablement trop tard. S'il avait écouté la démarche républicaine de l'UPC, on n'en serait jamais arrivé là. Et cette démarche avait commencé depuis sa volonté manifeste de mettre en place un Sénat, laquelle volonté a été mise en échec grâce à l'UPC, qui s'est employée de façon républicaine. Et comme elle s'est aussi employée en ce qui concerne cette fois-ci toute la convergence du peuple vers l'insurrection, par un management tout à fait inédit, autour duquel le corpus social burkinabé s'est mis d'accord et l'événement s'est passé, s'est réalisé autour des 30 et 31 octobre.
Oui, donc vous ne regrettez
non,
pas.
Le 30 et 31 octobre a mis en exergue une soif de démocratie du peuple burkinabé qui a finalement été tranchée ce jour-là ou ces jours-là par le départ d'un système auquel le peuple ne se reconnaissait plus en termes de démocratie et de réalisation de soi.
Et on parle du Cameroun ce matin dans la parole. Les ambassades de l'UE et des États-Unis au Cameroun se disent dépassées par le nombre de personnes demandant un visa pour quitter le pays. La plupart des demandeurs de visa viennent des régions anglophones. Rémi Mallet et vos commentaires.
Je préfère aller en Europe pour y être emprisonné que de rester au Cameroun et d'être tué, a indiqué à la DW Sylvie Kalga, une Camerounaise de 19 ans originaire des régions anglophones. À Koumbo, dans le nord-ouest du Cameroun, Claire Reims comprend le choix de cette jeune Camerounaise. Il faut être sur place et voir des atrocités pour comprendre ce qu'elle dit, lance-t-il. Sylvie Kalga a émis l'avis de 60% des Camerounais croient savoir Smith au Cameroun. Moi aussi, si j'ai les moyens, je ferai autant. On ne peut pas continuer à mourir dans le silence total de la communauté internationale, clame-t-il. Sur Facebook, Nadège dit être aussi originaire des régions anglophones. Selon elle, c'est la frustration doublée de la confusion qui pousse la plupart d'entre eux à chercher des pâturages plus verts. Mais aller ailleurs pour mieux vivre, ce n'est pas l'objectif de Matsei, qui compte rester au Cameroun pour développer son pays. Elle dit cependant être très attristée par le sort des populations anglophones. Mais si nous partions tous, que deviendrait notre pays? S'interroge-t-elle. Si tant de personnes veulent quitter l'Afrique, c'est dû au fait que le système éducatif n'est basé que sur une connaissance théorique et pas la pratique. C'est l'avis d'Alpha de Lomé au Togo. David, à Lomé au Togo, appelle le gouvernement à créer des emplois pour les jeunes. C'est de cette manière qu'ils resteront dans leur pays, selon lui.
Ouais, il va falloir redonner confiance à la jeunesse, créer des emplois. Par exemple, moi, là où je suis diplômé, je suis titulaire d'une licence. Si je sais que lorsque je serai diplômé, par exemple, je vais trouver à faire, qu'est-ce que je vais aller chercher voir ailleurs? Je vais souhaiter rester dans mon pays. Donc, il va falloir créer des emplois, encourager les jeunes, assainir le climat des affaires pour que les jeunes qui ont le goût de l'entrepreneuriat puissent investir dans leur pays. lorsque je sais que j'ai 100 000 par exemple et que je vais commencer une activité et que l'office de gouvernement des recettes ne va pas venir me taxer de payer 50 000 par mois, je ne vais même pas penser à aller ailleurs. Je vais investir dans mon pays.
Pour terminer, bienvenue de Lubumbashi en RDC, lit les flux migratoires vers l'Europe au fait que, selon lui, les dirigeants africains ne font que suivre leurs intérêts personnels sans penser au peuple.
Et vous l'entendez, c'est déjà la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition d'Info Matin. Prochain rendez-vous 17h pour le journal du soir. Excellente journée.
Tchuss.